La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans la forêt des contes. Et comme nous approchons de Noël, voici quelques histoires qui s'en réfèrent. Alors, ce ne seront pas des contes à proprement parler, mais nous irons plutôt dans la nouvelle, car il faut faire des différences, chers auditeurs et chères auditrices, entre le conte et la nouvelle. La nouvelle, ce sera donc une nouvelle du 19e siècle, avec Guy de Maupassant, avec deux nouvelles, une s'intitulant « La nuit de Noël », et qui sera suivie par un conte de Noël. Ça se passe la nuit de Noël, et parfois il y a des miracles. Nous allons trouver deux femmes, l'une possédée par le diable et exorcisée par l'hostie, et l'autre, vous verrez. Dans chaque histoire, une femme hurle que les oreilles sensibles se protègent. L'une, elle hurlera parce qu'elle accouche, tandis que l'autre est possédée du démon. Alors, donc, nous sommes à Noël. Et alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes depuis fort longtemps privés de l'image. Mais donc, dans nos aquariums respectifs, je suis avec un petit chapeau. Et dans l'autre aquarium, et le technicien, lui aussi, couvert de son chapeau. Et pour justement vous donner ces impressions de Noël. Et alors le docteur de Bonenfant cherchait dans sa mémoire, en se répétant à mi-voix, un souvenir de Noël, non, un souvenir de Noël. Ah, mais si, j'en ai un. Oh, et un bien étrange encore. C'est une histoire fantastique. J'ai vu un miracle, oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël. Cela vous étonne de m'entendre parler ainsi, moi qui ne crois guère en rien? Et pourtant, j'ai vu un miracle. Je l'ai vu de mes propres yeux, vu ce qui s'appelle vu. En ai-je été fort surpris? Eh ben, non. Car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi. Et je sais qu'elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples, mais je vous indignerai, je m'exposerai aussi à amoindrir les faits de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été fort convaincue et convertie par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort émue. Et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité d'Auvergnat. J'étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie. Oh, l'hiver cette année-là fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin les gros nuages venir du nord et la blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes, isolés dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. J'en profite pour faire une parenthèse, pour vous faire remarquer, chers auditeurs et chères auditrices, voilà toute la différence entre la langue littéraire écrite de M. Guy de Maupassant, que je suis en train de vous lire, et la langue orale qui n'aura pas envie de s'enticher de toute cette langue-là, mais qui, ma foi, est fort agréable à entendre et à lire. Donc, je poursuis avec cette mousse épaisse et légère. Aucun bruit ne traversait plus la campagne. Immobile. Seuls les corbeaux, par bandes, décrivaient de longs festins dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leur grand bec. On n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours. Cela dura 8 jours pleins, puis l'avalanche de neige s'arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de 5 pieds. Et pendant 3 semaines ensuite, un ciel clair, comme un cristal bleu le jour, et la nuit, tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni homme ni bête ne sortaient plus. Seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. De temps en temps, on entendait craquer les arbres comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce. Et parfois, une grosse branche se détachait et tombait. L'invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres. Les habitations semées çà et là par les champs semblaient éloignées de 100 lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches, m'exposant sans cesse à rester enseveli dans quelque creux. Je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n'était point naturel. On prétendit qu'on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule et qui fuyaient en masse vers le sud. Mais allez donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire. La forge du père Vatinel était située au bout du hameau des Pivants, sur la grande route, maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d'aller jusqu'au village. Il resta quelques heures à causer dans les 6 maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de peur, de cette peur épandue sur la campagne. Et il se mit en route avant la nuit. Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf dans la neige.
Ouais.
Un œuf déposé, là, tout blanc, comme le reste du monde. Il se pencha, et c'était un œuf, en effet.
Mais d'où venait-il? Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit?
Le forgeron s'étonna, ne comprit pas, mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme. « Eh, tiens, la maîtresse, voilà un œuf que j'ai trouvé sur la route !»
La femme hocha la tête. « Un œuf sur la route? Par ce temps-ci? Oh, ben, t'es sous, bien sûr !»
Mais non, la maîtresse, même qu'il était au pied d'une haie, et encore chaud, pas gelé. Le v'là. Je me l'ai mis sur l'estomac pour qu'il refroidisse pas. Tu le mangeras pour ton dîner? L'œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe, et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée. La femme écoutait toute pâle.
« Ah, pour sûr que j'ai entendu des sifflets l'autre nuit, même qui semblaient venir de la cheminée !»
On se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf, l'examina d'un œil méfiant.
Et s'il y avait quelque chose dans cet œuf ?
Mais que tu veux qu'il y ait ?
Je sais t'y mais.
Allons, mange-le, fais pas la bête.
Elle ouvrit l'œuf.
Il était, comme tous les œufs, et bien frais.
Elle se mit à le manger, en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant.
Le marais disait, « Eh ben, quel goût qu'il a, cet œuf !»
Elle ne répondit pas. Elle acheva de l'avaler, puis soudain, elle planta sur son homme deux yeux fixes, hagards, alioliés,
leva les bras, les tordus et convulsés, de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles. Toute la nuit, elle se débattit en des spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions. Le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier. Elle hurlait, sans repos, d'une voix infatigable. « Je l'ai dans le corps ! Je l'ai dans le corps !»
Et moi, en tant que médecin, je fus appelé le lendemain. J'ordonnais tous les calmants connus sans obtenir le moindre résultat. Elle était folle. Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l'obstacle des hautes neiges, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme.
« La femme du forgeron, elle est possédée !»
Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison. On écoutait de loin ces cris affreux, poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas crus d'une créature humaine. Le curé du village fut prévenu. C'était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis comme pour administrer un mourant, et il prononça en étendant les mains les formules d'exorcisme, pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue. Et l'esprit ne fut point chassé. Et la Noël arriva, sans que le temps eût changé. La veille au matin, le prêtre vint me trouver. « J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit, cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur. » À l'heure même où il naquit d'une femme. Je répondis au curé, « Je vous approuve absolument, monsieur l'abbé. Si elle a l'esprit frappé par la cérémonie et rien n'est plus propice à l'émouvoir, elle peut être sauvée sans autre remède. » Le vieux prêtre murmura, « Vous n'êtes pas croyant, docteur. Mais... aidez-moi. Vous vous chargerez de l'amener, n'est-ce pas ? » Je lui promis mon aide. Le soir vint, puis la nuit, et la cloche de l'église se mit à sonner. Jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne sur l'étendue blanche et glacée des neiges. Des êtres noirs s'en venaient lentement par groupes, dociles aux cris d'airain du clocher. La pleine lune éclairait d'une lueur vive et blafarde tout l'horizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs. J'avais pris quatre hommes robustes et je me rendis à la forge. La possédée hurlait toujours, attachée à sa couche. On la vêtit proprement, malgré sa résistance éperdue, et on l'emporta.
L'église était maintenant mais pleine de monde, illuminée et froide. Les chantres poussaient leurs notes monotones, le serpent ronflait, la petite sonnette de l'enfant de cœur tintait, réglant les mouvements des fidèles. J'enfermais la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère et j'attendis le moment que je croyais favorable. Je choisis l'instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur mon ordre, la porte fut ouverte et les quatre aides apportèrent la folle. Dès qu'elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le cœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échapper et elle poussa des clameurs si aiguës qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église. Toutes les têtes se relevèrent. Certaines personnes s'enfuirent. Elle n'avait plus la forme d'une femme, crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous. On la traîna jusqu'aux marches du chœur et puis on la tint fortement accroupie à terre. Le prêtre s'était levé. Il attendait. Dès qu'il y avait arrêté, il prit en ses mains l'ostensoir, ceint de rayons d'or, avec l'hostie blanche au milieu, et s'avançant de quelques pas, il l'éleva de ses deux bras tendus au-dessus de sa tête, le présentant aux regards effarés de la démoniaque. Elle hurlait toujours, l'œil fixe, tendu sur cet objet rayonnant. Et le prêtre demeurait tellement immobile qu'on l'aurait pris pour une statue. Et cela dura longtemps, longtemps, longtemps. La femme semblait saisie de peur, fascinée. Elle contemplait fixement l'ostensoir, secouée encore de tremblements terribles, mais passagers, et criant toujours, mais d'une voix moins déchirante. Et cela dura encore longtemps. On eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu'ils étaient rivés sur l'hostie. Elle ne faisait plus que gémir, et son corps raidi s'amollissait, s'affaissait. Toute la foule était prosternée, le front par terre. La possédée, maintenant, baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son Dieu. Elle s'était tue. Et puis, soudain, je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos. Elle dormait du sommeil des somnambules, hypnotisée. Pardon, vaincue par la contemplation persistante de l'ostensoir au rayon d'or, terrassé par le Christ victorieux. On l'emporta, inerte, pendant que le prêtre remontait vers l'autel. L'assistance, bouleversée, entonna ramena la femme du forgeron chez elle où elle dormit 40 heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance. Voilà, mesdames, le miracle que j'ai vu. Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d'une voix contrariée :
je n'ai pu refuser de l'attester par écrit. Et c'est comme ça que Guy de Maupassant l'a reçu. Et ainsi que se transforme, enfin se termine, cette première nouvelle de Guy de Maupassant. La possédée du démon, exorcisée. Et donc après, il nous propose une autre nouvelle intitulée « La nuit de Noël ». Donc, ça se passe la nuit de Noël. Donc, vous n'oubliez pas que nous sommes donc dans les locaux de FM+, avec des bonnets de Père Noël et des cotillons de partout. Les micros sont enguirlandés. Enfin, en guirlandais, au sens qu'ils sont entourés de guirlandes lumineuses. Et très, c'est très joli à voir. Vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image. Et alors, donc, vous imaginez donc, un petit groupe de personnes qui sont en train de parler du réveillon. Et on sollicite un gros monsieur nommé Henri Templier. Et on lui demande... Pourquoi il ne va pas réveiller né ce Noël ? Comment ça, le réveillon ? Ah non, je ne réveillerai pas ! Il disait ça d'une voix furieuse, le gros Henri Templier. Et les autres triants s'écrièrent : mais pourquoi te mets-tu en colère ? Ah, parce que le réveillon m'a joué le plus sale tour du monde et que j'ai gardé une insurmontable horreur pour cette nuit stupide de gaieté imbécile.
Quoi?
Vous voulez le savoir? Eh bien, écoutez. Vous vous rappelez comme il faisait froid, voici 2 ans à cette époque? Un froid a tué les pauvres dans la rue. La Seine gelait, les trottoirs glaçaient les pieds à travers les semelles des bottines. Le monde semblait sur le point de crever. J'avais alors un gros travail en train et je refusais toute invitation pour le réveillon, préférant passer la nuit devant ma table à écrire. Je dînais seul, puis je me mis à l'œuvre. Mais voilà que vers 10 heures, la pensée de la gaieté courant Paris, le bruit des rues qui me parvenait malgré tout, les préparatifs de souper de mes voisins, entendus à travers les cloisons, m'agitèrent. Je ne savais plus ce que je faisais, j'écrivais des bêtises, et je compris qu'il fallait renoncer à l'espoir de produire quelque chose de bon cette nuit-là. Je marchais un peu à travers ma chambre, je m'assis, je me relevais, je subissais certes la mystérieuse influence de la joie du dehors, et je me résignais. Je sonnais ma bonne, parce qu'en ce temps-là, on avait des bonnes, hein, Guy de Maupassant, 1850-1893. Donc je sonnais ma bonne et je lui dis « Angèle, allez m'acheter de quoi souper à deux, des huîtres, un perdreau froid, des écrevisses, du jambon, des gâteaux. Montez-moi 2 bouteilles de champagne, mettez le couvert et couchez-vous. » Elle obéit un peu surprise. Quand tout fut prêt, j'endossai mon pardessus et je sortis. Une grosse question restait à résoudre. Avec qui allais-je réveillonner ? Mes amis étaient invités partout. Pour en avoir une, il aurait fallu m'y prendre d'avance. Alors, je songeais à faire en même temps une bonne action. Je me dis, Paris est plein de pauvres et belles filles qui n'ont pas un souper sur la planche et qui errent en quête d'un garçon généreux. Je veux être la providence de Noël d'une de ces déshéritées. Je vais rôder, entrer dans les lieux de plaisir, questionner, chasser et choisir à mon gré. Et je me mis à parcourir la ville. Certes, je rencontrais beaucoup de pauvres filles cherchant aventure, mais c'était laide à donner une indigestion. ou maigre, à geler sur pied si elle s'était arrêtée. J'ai un faible, vous le savez, j'aime les femmes nourries. Plus elles sont en chair, plus je les préfère. Une colosse me fait perdre la raison. Soudain, en face du théâtre des variétés, j'aperçus un profil à mon gré. Une tête, puis par devant deux bosses, celle de la poitrine, fort belle, celle du dessous, ah, surprenante, un ventre d'oie grasse. J'en frissonnais, murmurant « Oh, sacristie la belle-fille !» Un point me restait à éclaircir, le visage. Le visage, c'est le dessert. Le reste, c'est le rôti. Je hâtais le pas, je rejoignis cette femme errante et sous un bec de gaz, je me retournais brusquement. Oh, elle était charmante, toute jeune, brune, avec des grands yeux noirs. Je fis ma proposition, qu'elle accepta sans hésitation. Un quart d'heure plus tard, nous étions attablés dans mon appartement. Elle dit en entrant « Ah, on est bien ici. » Et elle regarda autour d'elle avec la satisfaction visible d'avoir trouvé la table et le gîte en cette nuit glaciale. Elle était superbe, tellement jolie qu'elle m'étonnait. Et grosse à ravir mon cœur pour toujours. Elle ôta son chapeau, son manteau, s'assit et se mit à manger. Mais elle ne paraissait pas en train. Et parfois sa figure un peu pâle tressaillait comme si elle eût souffert d'un chagrin caché. Je lui demandais « Tu as des embêtements ?» Elle répondit « Bah, oublions tout !» Et elle se mit à boire. Elle vidait d'un trait son verre de champagne, le remplissait, le revidait, encore et encore, sans cesse et sans cesse. Bientôt, un peu de rougeur lui vint aux joues, elle commença à rire. Moi, je l'adorais déjà, l'embrassant à pleine bouche, découvrant qu'elle n'était ni bête, ni commune, ni grossière, comme les filles du trottoir. Je lui demandais des détails sur sa vie. Elle répondit « Oh, mon petit !» Cela ne te regarde pas. Hélas, une heure plus tard. Enfin, le moment vint de se mettre au lit. Et pendant que j'enlevais la table dressée dans le feu, elle se déshabilla hâtivement et se glissa sous les couvertures. Mes voisins faisaient un vacarme affreux, riant, chantant comme des fous. Et je me disais, j'ai eu rudement raison d'aller chercher cette belle fille. J'aurais jamais pu travailler. Un profond gémissement me fit retourner. Je demandais, qu'as-tu ma chatte ? Elle ne répondit pas, mais elle continuait à pousser des soupirs douloureux, comme si elle eût souffert horriblement. Qu'est-ce que tu te trouves indisposée ? Et soudain, elle jeta un cri déchirant. Je me précipitais, une bougie à la main. Son visage était décomposé par la douleur. Elle se tordait les mains, haletante, envoyant du fond de sa gorge ces sortes de gémissements sourds qui semblent des râles et qui font défaillir le cœur. Je demandai éperdu, « Mais qu'as-tu ? Dis-moi, qu'as-tu ? » Elle ne répondit pas et se mit à hurler. Tout à coup, les voisins se turent, écoutant ce qui se passait chez moi. Je répétais, « Mais où souffres-tu ? Dis-moi, où souffres-tu ? » Elle balbutia, « Oh, mon ventre ! Mon ventre !» D'un seul coup, je relevai la couverture et je vis. Elle accouchait, mes amis. Alors, je perdis la tête. Je me précipitais sur le mur et je heurtais à coups de poing de toute ma force en vociférant.
Au secours ! Au secours ! Au secours !
Ma porte s'ouvrit, une foule se précipita chez moi. Des hommes en habit, des femmes décolletées, des pierrots, des turcs, des mousquetaires. Cette invasion m'affola tellement que je ne pouvais même plus m'expliquer. Eux, ils avaient cru à quelque accident, à un crime peut-être, et ne comprenaient plus. Je dis enfin, cette femme accouche. Alors tout le monde l'examina, dit son avis. Un capucin surtout prétendait s'y connaître et voulait aider la nature. Ils étaient gris comme des ânes. Je crus qu'ils allaient la tuer et je me précipitai nue-tête dans l'escalier pour chercher un vieux médecin qui habitait dans une rue voisine. Quand je revins avec le docteur, toute ma maison était debout. On avait rallumé le gaz de l'escalier. Les habitants de tous les étages occupaient mon appartement. 4 débardeurs attablés achevaient mon champagne et mes écrevisses. À ma vue, un cri formidable éclata et une laitière me présenta dans une serviette un affreux petit morceau de chair ridée, plissée, geignante, miaulant comme un chat, et elle me dit « C'est une fille !» Le médecin examina l'accouché, déclara son état douteux, l'accident ayant eu lieu immédiatement après un souper, et il partit en annonçant qu'il allait m'envoyer immédiatement une garde malade et une nourrice. Les deux femmes arrivèrent une heure après, apportant un paquet de médicaments. Je passai la nuit dans un fauteuil trop éperdu pour réfléchir aux suites. Dès le matin, le médecin revint. Il trouva la malade assez mal. Il me dit « Votre femme, monsieur... » « Non, ce n'est pas ma femme. Votre maîtresse, enfin, peu m'importe. » Et il énuméra les soins qu'il lui fallait, le régime, les remèdes. Que faire? Envoyer cette malheureuse à l'hôpital? J'aurais passé pour un manant dans toute la maison et dans tout le quartier. Je la gardai donc et elle resta dans mon lit 6 semaines. L'enfant, je l'envoyais chez des paysans de Poissy. Il me coûte environ 50 francs par mois. Ayant payé dans le début, me voici forcé de payer jusqu'à ma mort. Et plus tard, il me croira son père. Enfin, elle me croira son père. Mais pour comble de malheur, quand la fille, la mère, a été guérie, elle m'aimait éperdument, la gueuse. Eh bien, dirent les personnes qui entouraient, donc celui qui raconte l'histoire, eh bien, elle était devenue mec comme un chat de gouttière. Je l'ai flanquée dehors, cette carcasse qui me guette dans la rue, se cache pour me voir passer, m'arrête le soir quand je sors, pour me baiser la même bambette, enfin à me rendre fou. Et voilà pourquoi je ne réveillonnerai plus jamais. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté jusque-là. Mais des contes, des vrais contes, on va vous en raconter. Ce dimanche 21 décembre, à la salle Frégère de Saint-Gély-du-Fesc, où vous pourrez retrouver la poétesse Marie-Agnès Alizada, que vous connaissez déjà, et aussi d'autres conteurs. Il y aura 3 séances, une à 10h30 pour les moins de 5 ans, avec un conteur, Didier Belloc, et à la séance de 15h30, donc il y aura Marie-Agnès à la poésie, Evelyne Chadi et moi-même pour les contes, et moi-même encore à l'accordéon pour la musique, accompagnée
d'un jeune... alors, je ne sais pas comment ça se dit. Quoi triste. Enfin, il joue d'un instrument qui s'appelle le cuatro, qui est une petite guitare à quatre cordes. Il vient de Colombie. Il est très jeune et il nous présentera justement son instrument de musique, nous fera des démonstrations de musique colombienne, traditionnelle et autres. Et aussi, pour les enfants, à 15h30, ensemble, nous chanterons « Vive le vent », qui sera aussi chansigné. Et comme l'annonce la musique qui est derrière moi ou qui est à côté de moi, je ne sais pas très bien, le branle de l'ours pour faire danser les enfants sur une musique traditionnelle folklorique et une danse traditionnelle folklorique. Il y aura aussi une scène ouverte pour les moins de 10 ans et cette séance sera suivie à 18h pour les ados et les adultes avec d'autres contes, d'autres musiques et aussi une scène ouverte pour les ados et les adultes. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Le tarif, c'est 5€ pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants. À très bientôt, j'espère, parce que le conte, c'est bien à la radio, mais c'est encore mieux en direct, en présentiel, de la bouche aux oreilles, comme c'est toujours transmis, ces histoires qui viennent de très, très, très loin. Et si vous ne venez pas ce dimanche à Saint-Gély, à la semaine prochaine, sur les ondes de Radio FM+, et merci aux techniciens sans lesquels tout ceci ne pourrait pas exister. Aurélia et Yann pour aujourd'hui. Au revoir, chères auditrices et chers auditeurs, et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.